Radio Okapi. À la présentation du journal, Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire, ce matin, le président de la République a rendu hommage à la femme du Kivu en rappelant l'impact négatif que les conflits armés imposés dans cette partie du pays a sur cette catégorie de la population et sur les enfants. C'était devant des centaines de femmes réunies hier, mercredi 8 mars, au Palais du Peuple en guise de commémorer la journée de leur dédiée. Justice, la peine capitale a été requise hier mercredi à Kinshasa contre les 6 meurtriers de l'ex-ambassadeur d'Italie en RDC, Luca Attanasio, son garde de corps italien ainsi que les chauffeurs congolais du PAM. C'était devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Gombe à la prison militaire de Ndolo. L'invité de ce journal est la présidente de la commission genre, femmes et familles de l'Assemblée nationale. La députée Christelle Vwanga revient sur les réformes législatives initiées par le Parlement pour promouvoir les droits de la femme. Voilà pour le titre. Les détails, c'est dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bonjour. La Journée internationale de la femme est célébrée cette année de manière pieuse et dans la dignité en RDC en raison du deuil que notre pays observe des suites d'horribles massacres de nos compatriotes consécutifs à la guerre d'agression et des prédations nous imposées à l'est du pays. La déclaration est du président de la République devant des centaines de femmes réunies au Palais du Peuple hier mercredi pour commémorer la journée du 8 mars qui leur est dédiée. Félix Tshisekedi a rendu hommage à la femme du Kivu en rappelant l'impact négatif que ce conflit armé a sur cette catégorie de la population et sur les enfants. On l'écoute dans cet extrait proposé par Pelé Kipelamondo.
Comme vous le savez, l'agression dont nous faisons l'objet a un impact négatif majeur sur les populations civiles, particulièrement auprès des femmes et des enfants qui sont les plus exposés aux viols et autres violations les plus graves des droits de l'homme. On dénombre à ce stade plus de 170 000 déplacés du fait de cette guerre, contraints de vivre dans une précarité quasi indescriptible. Cette situation malheureuse n'affecte pas pour autant la détermination affichée dans notre chef et dans celui du gouvernement de mettre un terme définitif à cette souffrance et ainsi réhabiliter l'honneur de toute une nation. C'est ici le lieu de rendre un vibrant hommage à toutes les femmes congolaises qui se battent contre l'agression dont est victime notre pays par son voisin le Rwanda, et de saluer par la même occasion la mémoire de toutes nos filles, jeunes filles et mamans fauchées par la barbarie de nos agresseurs sous couvert du mouvement terroriste du M23 qui sème la désolation et la mort dans notre pays.
La province du Nord Kivu a célébré le 46e anniversaire de la Journée internationale de la femme dans un climat d'incertitude, de chagrin et d'amertume suite à la guerre dont elle est victime. Des messages appelant les autorités congolaises et ses partenaires à s'investir davantage pour le retour de la paix ont été lancés hier mercredi à Goma à cette occasion. C'est le vice-gouverneur des provinces qui a officiellement lancé les activités du mois dédié à la femme en présence de plusieurs autorités locales et des représentants des agences des systèmes des Nations Unies. Reportage de Denise Loukesso.
Nous sommes fatigués, nous voulons la paix.
Habillées en tenue noire, expression de compassion, les femmes du Nord Kivu ne jurent que par le rétablissement de la paix totale et durable.
Les gens sont en train de souffrir dans le Nord Kivu et les gens meurent, mais aussi la guerre de M23 ne laisse pas vraiment la paix. Aux autorités, nous voulons vraiment qu'ils puissent investir plus dans la paix, plus dans la sécurité du Nord Kivu parce que nous souffrons.
Au vu du thème mondial, pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes, Madame Edon Ziavaki, femme leader au Nord Kivu, estime qu'on ne peut pas parler de la digitalisation dans le contexte actuel de l'Est de la RDC en général et celui du Nord Kivu en particulier.
Nous avons des femmes qui quittent Mweso jusqu'à Pinga à pied dans la forêt, qui traversent les montagnes. Est-ce que ce mot-là a une signification devant ces femmes-là? Ce n'est pas le moment de parler de la digitalisation au Nord Kivu et à l'Est de la RDC. Attendons qu'il y ait la paix, on va parler de la digitalisation.
Prenant la parole, le vice-gouverneur des provinces reconnaît que la province du Nord Kivu traversent des moments horribles pendant lesquels les femmes, les filles et les enfants sont les premières victimes de la barbarie humaine. Et que cela doit cesser, a déclaré Ekuka Lipopo. Goma, Denis Luke sur Radio Kapi.
Et comme nous sommes au Nord Kivu, sachez que sur la ligne de front, des violents combats ont opposé dans la matinée d'hier mercredi les FARDC aux rebelles du M23, appuyés par l'armée rwandaise sur les collines surplombant le village de Kirote dans le territoire de Masisi. C'est à environ 10 km à l'ouest de Sake. Selon les sources sur place, la panique a contraint les populations de Kirote et Chacha à se déplacer les uns vers Minova et les autres vers Bweremana. Sur le front nord, nos sources parlent d'autres accrochages hier mercredi matin sur l'axe Mabenga-Rwindi. Et dans la province de l'Ituri, les associations féminines jouent un grand rôle dans la résolution des conflits où des femmes s'investissent dans les processus de paix. Ces mots sont du chef de bureau de la MONUSCO en Ituri. Soro Karna rappelle que certaines ont eu à contribuer à la libération des otages par des groupes armés en Ituri. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, il a tenu à leur rendre hommage et à saluer leur participation, notamment dans la résolution des conflits en Ituri. C'est tout en soulignant que la MONUSCO va continuer à soutenir les initiatives pour améliorer leurs droits. Un extrait de ses propos choisi par Jean-Claude Lokidili.
Ici en Ituri particulièrement, on voit combien les femmes s'investissent dans la paix. Tout à l'heure, vous avez parlé des dialogues. Les femmes font partie des segments de la société qui facilitent les discussions pour que les gens se parlent. Dernièrement, nous avons eu une certaine série de crises. Nous avons eu des prises d'otages de la part d'un certain nombre de groupes armés. Ce sont des associations de femmes qui ont travaillé à la libération de ces otages-là. Nous allons continuer, en ce qui nous concerne MONUSCO, à travailler avec elles. Nous allons continuer à nous assurer, à faire le plaidoyer dans les communautés, que ce soit pour la scolarisation des jeunes filles, que ce soit pour la prise en compte de la parole des femmes, que ce soit aussi leur participation à l'espace politique, à l'espace décisionnel. Nous allons continuer à appuyer donc les femmes pour qu'elles puissent vraiment contribuer de façon plus effective encore à la pacification totale et définitive de cette société.
Et puis le parti politique Énergie Nouvelle a célébré hier mercredi 8 mars la Journée internationale des droits des femmes sous le signe de la solidarité envers les victimes de la guerre. Ce sont particulièrement les femmes, les jeunes filles et les enfants qui paient les lourds tributs de toutes les atrocités qui déstabilisent et endeuillent la partie est de la RDC. C'est dans ce cadre qu'une messe d'action de grâce a été organisée à la paroisse Saint-Gonza à Kingabwa. À cette occasion, Moncese Ngoya Junior Moïse, président de cette formation politique, a invité les autorités et la communauté internationale à multiplier les efforts pour mettre un terme à la guerre. On l'écoute au micro de Jean-Marc Matouaki.
Nous sommes venus implorer la grâce divine pour cette femme qui est victime de violences sexuelles, physiques, psychologiques et autres atrocités, afin que cette femme puisse retrouver sa dignité ainsi que sa liberté, puisque le 8 mars, c'est une date réservée aux femmes. Et ce n'est pas n'importe quel jour, c'est une date à laquelle la femme présente ses valeurs. Et cette femme de l'Est de la RDC est privée de sa liberté. Voilà pourquoi nous sommes venus implorer premièrement au Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Nous sommes aussi venus pour réveiller la conscience des acteurs politiques et du reste du monde, afin que des mesures sévères soient prises. Je dirais simplement à ces femmes victimes que c'est encore possible, de ne pas désespérer.
Et toujours dans la capitale, l'ambassade de Suède en RDC a organisé hier mercredi 8 mars au Silikin Village l'événement Wikigap en collaboration avec Wikimedia RDC et Radio de la Femme. Initié en 2018 par le ministère suédois des Affaires étrangères et Wikimedia Suède, Wikigap a pour objectif de fournir une plateforme aux volontaires qui souhaitent contribuer à la réduction du gap entre les genres sur Wikipédia. Durant 3 séances, une vingtaine de personnes ont bénéficié de la dite formation. D'autres détails dans ce reportage de Fulbert Balolagi.
Les bénéficiaires de cette édition ont été formés sur la rédaction des articles publiés sur Wikipédia. Ils sont de différents domaines, comme le confirme Nixon Mukoko de Wikimedia RDC, l'un des formateurs.
Et nous avons eu à parler de 20 personnes, mais la difficulté, c'est de trouver des filles, de trouver des femmes. Elles sont à 7. Il y a des universitaires, il y a des journalistes, des écrivains, même des entrepreneurs, des employés dans la société.
Formation gratuite ou bien payante?
Nos formations sont toujours gratuites.
La Suède s'est réjouie de contribuer à leur formation pour réduire les gaps du genre sur Wikipédia, l'ambassadeur des Suèdes en RDC, Henrik Rasbrandt.
Je pense qu'on a pu constater en général, pas seulement en RDC, mais au niveau global, il n'y a pas d'équilibre entre les hommes et les femmes sur Wikipédia. Et justement, pour contribuer alors à rééquilibrer un peu ces taux de présence entre hommes et femmes, la Suède alors participe à cet exercice, à cet événement.
Prisim Buka, informaticienne qui a bénéficié de la formation, sait déjà ce qu'elle doit faire.
Après cette formation, je vais continuer à rédiger des articles pour apporter mon apport sur le média.
L'événement de 2023 est la troisième édition qu'offre l'ambassade de Suède en RDC.
Justice au procès du meurtre de l'ex-ambassadeur d'Italie en RDC, Luca Attanasio, son garde du corps italien ainsi que le chauffeur congolais du PAM. La peine capitale contre le meurtrier a été requise à l'audience publique hier mercredi par le ministère public. C'était devant le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe à la prison militaire de Ndolo. Ils sont au nombre de 6 prévenus jugés pour ce meurtre dont 5 comparaissent et 1 en fuite et jugé par défaut pour des faits commis en février 2021 au Nord Kivu. Jeff Ngoy, reportage.
C'est la 17e audience publique sans tous les avocats de la défense, sauf le président du collectif revendiquant le paiement de leurs émoluments. Les victimes ont été kidnappées, traînées en profondeur dans la forêt avant d'être exécutées par balles. Argue le ministère public, le capitaine magistrat Bamusamba Kabamba lors de son réquisitoire. Poursuivi pour meurtre, association de malfaiteurs, détention illégale d'armes et munitions de guerre, il comparaissent depuis le 12 février 2021. Concernant les attentes des parties civiles, la République italienne et Salvatore Attanasio, père de l'ex-ambassadeur, un des conseils de Ogracias Kachongwe déclare.
Le véritable souci, c'est voir que les faits sont jugés selon la loi. La partie civile est intéressé par la réparation civile et premièrement évidemment pour que la loi soit dite.
Du côté de la défense, Maître Joseph Amzati clame l'innocence des prévenus.
Nos clients, durant les audiences, ont toujours plaidé non coupables. Ils ne reconnaissent pas ces faits et que c'est à tort que le ministère public vient de requérir la peine de mort.
Quant aux compagnons d'infortune de l'ancien ambassadeur, personne n'est représenté au procès, mais il demeure cité à toutes les audiences, dont la prochaine est prévue le samedi pour les plaidoiries de la défense.
Sous un autre chapitre, la MONUSCO n'organise pas de dialogue entre les communautés, mais elle apporte son soutien aux initiatives des autorités locales et des communautés dans le but de renforcer la cohésion sociale. Cette déclaration du chef de bureau de la MONUSCO en Ituri fait suite aux accusations de certains leaders communautaires selon lesquels la MONUSCO aurait initié le dialogue en cours de préparation en faveur d'une communauté de l'Ituri. Marc Soro Karna estime que le dialogue reste l'un des moyens à côté des efforts militaires susceptibles de ramener une paix durable en Ituri. On l'écoute au micro de Jean-Claude Lokidile.
La proposition d'encourager ces dialogues émane des communautés. Il est important que les gens continuent à se parler. C'est dans cette perspective que les responsables des communautés ont proposé d'abord une étape préalable, qui est l'étape des discussions intracommunautaires. Ça permet à chaque communauté d'analyser la situation que traverse leur communauté et sur cette base-là, faire maintenant des propositions sur la sortie de crise, comment entamer les discussions avec les autres pour que toutes ces violences s'arrêtent. Tout ce qui se passe en Ituri est documenté. Toutes les violences sont documentées. Et donc, ces dialogues ne visent aucunement à notre sens, en tout cas de ce que les communautés nous ont dit, puisqu'encore une fois, ce sont elles qui organisent ces dialogues-là. Ces dialogues visent, pour ces communautés-là, à parler justement de ces choses-là. Cela n'exclut pas les mesures militaires. Les mesures militaires sont en cours, tout comme les mesures aussi de lutte contre l'impunité sont en cours.
Actualité internationale.
À Djibouti, la nouvelle Assemblée nationale se met en place. Après le vote du 24 février, la majorité présidentielle confirme sa mainmise quasi totale. Le camp du président Ismaël Omar Guelleh, dit IOG, a enregistré une victoire écrasante avec 58 députés élus sur 65. Le 5 mars dernier, le nouveau président de l'Assemblée a été élu. Dileïta Mohamed Dileïta est un ancien premier ministre et diplomate. Les opposants, eux, sont sceptiques et voient de manœuvres en vue de la présidentielle de 2026. Et puis les autorités maliennes de transition suspendues en catimini les indemnités des représentants des groupes armés siégeant au comité de suivi de l'accord de paix de 2015. Ces groupes avaient suspendu leur participation au CSA en décembre dernier sur fond de tensions extrêmes avec le gouvernement de transition.
L'invité.
L'invité de ce journal est la présidente de la commission genre, femmes et famille de l'Assemblée nationale. La députée Christelle Vuanga revient sur les réformes législatives initiées par le Parlement pour promouvoir les droits de la femme congolaise. C'est en marge de la célébration le 8 mars de la Journée internationale des droits de la femme. La députée nationale Christelle Vuanga est interrogée ici par Michel Kifindangoy.
Christelle Vuanga, bonjour.
Bonjour, monsieur Michel.
Quel état des lieux faites-vous de la lutte pour la parité homme-femme en République démocratique du Congo?
Merci, monsieur Michel. Il faut bien savoir que la parité, c'est un grand idéal, pour ne pas dire utopique, quelquefois difficile à réaliser, même dans ce contexte où chaque jour, les questions de droits de femmes est devenue peut-être une question de marketing politique, même dans ces grands pays où on parle des pays des droits de l'homme, qui respectent les droits de femmes, mais la parité n'a pas encore été installée parfaitement. Et je pense que pour la République démocratique du Congo, nous sommes loin de parler de la parité. Nous sommes encore au niveau de la faible représentativité de la femme, que ce soit dans les institutions, que ce soit dans les entreprises publiques, que ce soit même dans les entreprises privées, parce que c'est une question de mécanisme et de canal par lesquels nous voulons que les femmes aient non seulement de postes des responsabilités, mais que des femmes contribuent à l'évolution de la nation.
La législation congolaise encourage-t-elle la promotion du genre en RDC?
Je dirais que la législation congolaise accompagne la promotion du genre au Congo, dans les textes, oui, donc de jure, oui, mais de facto, ça pose un problème parce que nous sommes fièrement en contradiction avec certaines lois, notamment la loi sur la parité. Aujourd'hui, vous savez, au gouvernement, il y a presque, si je ne me trompe pas, 37% des femmes. Au Parlement, nous étions au début à autour de 10%. Au Sénat, je pense que nous naviguons autour des mêmes chiffres. Donc, encourager, c'est bien de le dire, mais c'est mieux de le faire. Et le faire, les lois ne suffisent pas. Il faut qu'il y ait des vrais mécanismes d'accompagnement. Et le premier mécanisme, je dirais donc, c'est vraiment la volonté politique.
Quels sont les efforts que vous avez déjà entrepris au niveau du Parlement pour encourager la promotion du genre?
Pour les efforts, ceux qui me connaissent, ils savent bien avant, j'étais à la commission des droits de l'homme. Et là encore, je le pense sérieusement, comme Hillary Clinton le dit si très bien, que les droits humains sont les droits des femmes. Et les droits des femmes sont les droits humains. Quand bien même j'étais la présidente de la commission droits humains, je travaillais également pour les droits des femmes. Et ça, ce n'est qu'une continuité du travail que je faisais avant. Donc, on a beaucoup travaillé sur des questions générales des droits humains et des questions spécifiques des droits des femmes. Par exemple, sur la question des femmes handicapées, la loi protégeant et faisant promotion des personnes handicapées. Et si nous prenons au hasard la loi sur la protection des peuples autochtones, la loi de 2006 qu'on a essayé de voir avec beaucoup de collègues et beaucoup de commissions, comment revisiter cette loi, cette célèbre loi sur les violences sexuelles de 2006, qui était votée dans un contexte purement de conflit, de guerre. Mais il faut savoir aujourd'hui, la société civile et plusieurs organisations des droits humains s'étonnent que les victimes de violences sexuelles ne viennent pas seulement des zones à conflit. Nous travaillons également sur les questions de mariage forcé et de mariage précoce.
Le code de la famille a été modifié et annule l'autorisation maritale pour qu'une femme mariée puisse commencer à travailler. Est-ce que ce code et les différentes lois que vous avez déjà modifiées ont été intériorisées dans la société congolaise?
Évidemment, cette question du code de la famille par rapport à l'autorisation maritale, je pense que c'est une question assez basique de droits de l'homme, des droits fondamentaux, même garantis dans notre constitution. Alors en ce qui concerne l'intériorisation, je pense que oui. beaucoup de femmes aujourd'hui sont au courant de cette disposition, de cette révisitation du code de la famille, mais il ne faut pas non plus oublier que la majorité des femmes travaillent dans les secteurs informels.
Christelle Vouanga, je vous remercie.
C'était l'invité de ce journal, la présidente de la commission genre, femmes et familles de l'Assemblée nationale. La députée Christelle Vouanga était interrogée par Michel Kifindangoy. Merci de continuer à réécouter ce journal sur toutes les plateformes digitales de Radio Capi.